Bonjour, bienvenue au balado Le passé au présent, développé par la Société Alzheimer de Québec, le balado qui tente de vulgariser et de démystifier l'information entourant les troubles neurocognitifs. Mon nom est Charlie Dorval et je suis intervenante sociale à la Société Alzheimer de Québec. Avant de débuter, je vous invite à visiter notre site web societéalzheimerdequebec.com si vous souhaitez faire un don ou vous informer sur nos services. Si vous désirez parler à une intervenante, référez-vous à la Société Alzheimer de votre région. Merci et bonne écoute! Alors, bonjour, bonjour et bienvenue au troisième épisode du podcast Le passé au présent. Donc, aujourd'hui, mes invités, on a Carole Hudon, qui est neuropsychologue et psychologue, professeur titulaire à l'Université Laval et au Centre de recherche cerveau, si je ne me trompe pas.
Centre de recherche cerveau et Centre de recherche en santé durable aussi, VITAM.
VITAM. Ouais. Merci beaucoup d'être présent. À côté, on est accompagné d'Alexandra Ribon de Mars, qui est professionnelle de recherche. Donc, à l'Université Laval également. Donc, c'est toi qui es professionnel de recherche sur le projet dont on va parler aujourd'hui, le projet Living Lab Camélia. C'est ça notre sujet. Je vous invite premièrement à vous présenter individuellement qui êtes-vous. C'est quoi votre parcours brièvement? On peut peut-être commencer par Carole.
Bien, moi, comme vous l'avez dit, neuropsychologue, c'est ma formation. Mm-hmm. Je suis neuropsychologue et psychologue en même temps, en fait. Professeur titulaire à l'École de psychologie, puis j'ai travaillé en recherche depuis le début de ma carrière sur la maladie d'Alzheimer. J'ai travaillé dans les premières années sur le dépistage précoce de la maladie, avant même qu'on puisse diagnostiquer formellement la maladie, quels sont les signes avant-coureurs. Ensuite, je suis allé vers le développement d'interventions pour les gens qui ont des problèmes cognitifs légers. Mm-hmm. Et je suis maintenant rendu à l'autre bout du continuum, c'est-à-dire je fais des travaux de recherche chez les gens qui ont besoin d'hébergement et de soins de longue durée. Okay. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a développé, on va en parler tout à l'heure, le Living Lab en Maison des aînés, puis on est établi à la Maison des aînés de Sainte-Foy.
OK, parfait. Puis à titre informatif, qu'est-ce qui vous a amené à faire vos recherches ou à vous intéresser plus à la maladie d'Alzheimer puis aux troubles neurocognitifs?
En fait, moi, j'ai toujours été passionné de la mémoire. J'ai commencé ma formation en recherche animale.
OK.
J'ai fait des travaux, il y a très loin chez le pigeon, mais après ça, chez le rat. Je travaillais chez les modèles animaux de la mémoire chez le rat. Puis éventuellement, j'ai développé une allergie très sévère au rat, donc il a fallu que j'arrête ce type de recherche-là. Puis comme la mémoire me passionnait, bien, il était naturel que j'aille vers la maladie d'Alzheimer. Je suis allé faire un postdoctorat en maladie d'Alzheimer et depuis ce temps-là, je travaille sur ce problème de santé-là.
OK. Ah, c'est intéressant ça. Merci. Mm-hmm. Alexandra.
Oui, donc moi, je suis titulaire d'un doctorat donc de l'Université Laval en sciences cliniques et biomédicales. Suite à ce doctorat, j'ai décidé de postuler avec Carole pour un poste de professionnel de recherche, donc dans l'idée de coordonner ce Living Lab. Moi, ma formation n'était pas du tout tournée vers la neuropsychologie ou les maladies, la maladie d'Alzheimer initialement, mais c'est quelque chose qui m'intéressait, qui me touchait. J'ai encore mes grands-parents et je trouve que c'est important de s'intéresser aux personnes âgées et de les accompagner. Normalement, on va tous passer par ce stade ou presque. Donc, je trouve que c'est un beau sujet à étudier et puis à améliorer en continu, quoi.
Oui, effectivement. On y pense pas maintenant, mais effectivement, ça va être nous un jour dans cette situation-là. Donc, il faut établir des bonnes bases pour pouvoir nous-mêmes bien vivre plus tard. On va rentrer directement dans le sujet, le Living Lab. Donc, vous travaillez tous les deux sur ce projet-là. De ce que j'en comprends, toi, Alexandra, tu es un petit peu plus sur le terrain, donc, comme tu as dit, à la coordination de sur le terrain, comment ça se passe et tout avec les employés, le personnel, etc. Oui, puis, Carole, ton rôle là-dedans, quel est-il?
J'en ai plusieurs, mais essentiellement, c'est de coordonner les activités entre les chercheurs, aller chercher les expertises nécessaires pour répondre aux enjeux qui se présentent sur le terrain. Évidemment, aller chercher les fonds aussi pour réaliser, réaliser les travaux. Mm-hmm. Donc ça, c'est un gros travail. L'écriture de demande de subvention, c'est un processus qui est continu.
Ouais.
Donc je travaille beaucoup là-dessus, aller chercher les fonds nécessaires pour financer le Living Lab.
Donc, on est plus dans l'organisation.
L'organisation, là, les mariages, oui, et tout ça. Puis le terrain, Alexandra va en parler davantage tout à l'heure, mais je laisse ça à elle pour l'instant. Mais elle fait le pont entre les chercheurs et les gens sur le terrain, infirmières, préposées, etc.
Puis comment on peut expliquer le projet Living Lab, en fait? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Je ne sais pas qui peut nous expliquer.
J'y vais.
Je peux y aller aussi.
Ben, tu compléteras si tu veux. En fait, vous voulez qu'on parte des origines du projet?
Oui, d'où ça part? Qu'est-ce que c'est? Comment la mise en place, etc.? Ouais.
Ben, ça remonte à il y a 3 ans, en fait. Mm-hmm. Ça remonte à janvier 2021. L'Université Laval avait voulu catalyser, en fait... donner un coup de pouce aux chercheurs pour se préparer à la relance post-pandémique en recherche. Mm-hmm. Donc, créer assez rapidement, avant la fin de la pandémie, des groupes intersectoriels de recherche. Et il y en avait un qui était sur le thème du vieillissement.
Okay.
On m'a demandé de diriger le groupe, au départ avec Caroline Sirois, qui est professeure à la faculté de pharmacie, pardon. Et on s'est réunis et assez rapidement, on a proposé l'idée de faire de la recherche en maison des aînés.
Okay.
Pourquoi les maisons des aînés? Parce que c'est un nouveau modèle d'hébergement et de soins de longue durée. La philosophie est très différente de ce à quoi on est habitué dans les CHSLD. Puis avec ce qu'on a vu dans les CHSLD durant la pandémie, toutes les histoires d'horreur qu'on a pu voir, il y a eu des très bons coups des CHSLD, mais il y a eu des coups qui ont été médiatisés. Et qui faisait en sorte que les CHSLD avaient mauvaise presse. Donc, on voulait s'implanter dans les maisons des aînés puis participer au déploiement de cette nouvelle philosophie-là, de cette nouvelle offre de services d'hébergement. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. L'Université de Laval nous a donné un petit coup de pouce en nous finançant le démarrage de nos activités. Et on a réussi à aller chercher des fonds d'appoint, de centres de recherche comme Centre Vitam, Alliance Santé Québec, la Fondation pour les aînés, l'innovation sociale nous a financés aussi pour nous mener éventuellement à une subvention qui provient directement du ministère le but ici de la subvention, c'est d'étudier la transition des gens qui quittent un CHSLD pour aller s'établir en maison des aînés. Donc, ça, c'est le processus qui a eu cours. Puis la maison des aînés a ouvert concrètement ses portes au mois de décembre.
Mm-hmm.
Et c'est là que les travaux sur le terrain ont débuté.
OK.
Je ne sais pas si tu veux ajouter par rapport à l'ouverture de la maison ou sur autre chose.
Bien, en fait, tu peux peut-être te demander, c'est quoi la différence, la grosse différence entre les CHSLD, pardon, et les maisons des aînés? Qu'est-ce qui fait que la maison des aînés, justement, va améliorer le milieu de vie, etc., la qualité de vie des personnes qui vont y résider?
Mais juste avant de répondre à cette question, je veux juste rebondir sur le Living Lab, vraiment aussi. Ce que Carole disait, c'est qu'on a décidé d'aller dans ces maisons des aînés. Puis, qu'est-ce que c'est un Living Lab? L'idée, c'est vraiment d'avoir de la recherche sur le terrain. Mm-hmm. On a l'habitude où les chercheurs sont dans un laboratoire, discutent en fonction de la littérature, de qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'on pourrait regarder comme question, enjeu. Nous, là, l'idée, c'est plutôt vraiment d'être sur le terrain, de discuter avec les parties prenantes, puis de comprendre les enjeux pour transformer ceci en projet de recherche et donc aller chercher les expertises de nos différents chercheurs.
Donc, quand tu dis de discuter avec les parties prenantes, c'est entre autres le personnel, les personnes proches aidantes également qui accompagnent peut-être une personne qui vit dans les 10 CHSLD ou dans la maison des aînés éventuellement, puis de prendre le pouls auprès d'eux, c'est quoi les enjeux, c'est quoi qu'est-ce qui est à améliorer?
Exactement. Ben, c'est un peu mon rôle aujourd'hui. Moi, on appelle ça un LinkedIn pin parce qu'on n'a comme pas trouvé de mot français pour personne ressource, personne de liaison.
Okay.
L'idée, c'est que moi, je suis la personne de liaison scientifique. Je suis sur le terrain. Puis, je fais des rencontres régulières avec une personne de liaison qui est praticienne. Donc, elle qui est chef d'unité, elle aussi sur le terrain. Puis, on discute ensemble de qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis comme tu dis aussi, on discute avec les résidents, avec les proches. Donc vraiment un peu tout le monde, puis on a aussi des partenaires, on en parlera un peu plus tard, qui viennent nous aider. Donc l'idée, c'est vraiment de la co-construction de projets. C'est pas on travaille chacun de nos côtés, là, c'est on est tous ensemble, on réfléchit tous ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer en continu ce milieu.
Puis, ok, c'est intéressant ça.
Pour ta question, oui. Ben, le modèle CHSLD, je pense que tout le monde le connaît. Là, c'est des hébergements de soins et de longue durée pour les personnes âgées. C'est souvent très médicalisé. L'établissement ressemble à un hôpital. Ouais. Les procédures, les règles sont très strictes. Donc, on laisse peu de flexibilité, on laisse peu d'autonomie, d'autodétermination aux personnes résidentes. Là, l'idée de la philosophie des maisons des aînés, c'est vraiment comme à la maison. Donc, un milieu de vie où on veut favoriser encore l'autonomie et l'autodétermination de la personne. Donc, il y a des espaces de vie pour que la résidente ou le résident, s'il veut aller cuisiner, il puisse aller cuisiner. S'il veut aller faire des machines à laver, il peut faire une machine à laver. Donc, c'est vraiment essayer de le laisser dans un espace qui est moins médicalisé. Donc, il n'y a pas de chariot dans les corridors. On essaye de demander au personnel de ne pas s'habiller avec des vêtements d'hôpitaux, donc de rester avec les vêtements de ville.
OK.
Oui. Donc, c'est plein de petites choses comme ça. Puis ça, je pense que Carole sera meilleure que moi pour en discuter. Mais chez les personnes qui ont des troubles neurocognitifs majeurs, c'est très important d'enlever tous ces petits... détails, une blouse, un chariot, une porte fermée.
Ouais.
Ben, ça, on essaye de l'enlever dans les maisons des aînés pour que la personne qui est dedans ne se sente pas enfermée.
Qu'elle ne se sente pas à l'hôpital, exactement. Vraiment chez elle.
Exactement.
Puis, tu as nommé l'autonomie des personnes, parce qu'on sait que, justement, les gens qui, dans ce que moi, je connais, c'est les troubles neurocognitifs, les gens qui, éventuellement, s'en vont en CHSLD, c'est parce qu'ils sont en très grande perte d'autonomie. Donc, on considère qu'ils sont, légèrement, en gros guillemets, qu'ils ne sont plus capables de vaquer à leurs occupations régulières. Donc, là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce qui leur reste d'autonomie, puis de mettre l'emphase là-dessus, en fait.
Mais ce qui leur reste d'autonomie, puis de les stimuler encore. Donc, il y a des salles autoportantes, là, des salles à thématiques. Donc, une personne qui, par exemple, a fait du dessin toute sa vie, il y a comme un espace où elle pourrait continuer à dessiner. Donc, continuer à la stimuler pour pas qu'elle, comme dans un CHSLD, qu'elle s'enferme dans sa chambre, qu'elle fasse plus rien. Puis finalement, qu'il y ait un déclin de...
Éviter le déconditionnement,
en fait. Exact.
Ouais. Il y a des CHSLD qui le font. Il y a une transition. Les CHSLD, de plus en plus, vont intégrer la philosophie de ce type-là.
Mais là, on va avoir une stimulation qui va être plus qui va avoir une plus grande variété, parce que là, en ce moment, de ce que je connais, du moins de CHSLD, parce que ma grand-mère est allée à sa fin de vie, c'est beaucoup des activités, comme tu dis, dessin, bingo, etc. Mais là, on va avoir une variété, plus au niveau des activités de la vie quotidienne aussi, une possibilité de faire, faire le ménage, faire le lavage, etc. Ah, c'est intéressant, ça, comme idée. Puis... là, en ce moment, vous dites que vous êtes implanté, le Living Lab, dans la Maison des aînés de Sainte-Foy.
Ouais.
Puis, elle est ouverte depuis le mois de décembre, de ce que je comprends. Puis, comment ça se passe pour le moment?
Alexandra, tu es sur le terrain, donc je vais te laisser
si on peut aller là, en fait.
Ouais. Oui, aucun problème. Ça se passe très bien, mais il faut savoir que on a eu comme la chance, on va dire ça comme ça, c'est que la Maison des aînés de Sainte-Foy a ouvert... progressivement. Donc, c'est 96 lits, mais les 96 lits n'ont pas ouvert immédiatement. Ça a ouvert d'abord 4 maisonnées de 12 résidents. Puis, c'est un CHSLD, c'est le CHSLD Louis Hébert qui a transféré. Donc, ça, c'était intéressant pour nous, puisque, comme disait Carole, le ministère de la Santé et des Services sociaux nous ont financé un projet pilote pour un peu documenter la transition des résidents. Ouais. Donc, on a pu regarder comment ça se passait dans un CHSLD, donc à Louis Hébert. Puis, on a suivi ces résidents. Et maintenant, ils sont à la Maison des aînés de Sainte-Foy. Donc, on a pu aussi regarder de nouveau d'autres paramètres. Donc, est-ce qu'il y avait un changement?
Oui, au niveau des comportements, au niveau du confort, etc. C'est ça. Des personnes.
Donc, ce qui fait que moi, on connaît les résidents, on connaît le personnel depuis quand même quasi un an parce qu'on était déjà à Louis-Hébert. C'est pas en décembre, on est arrivé dans la bâtisse et bonjour, c'est
on
nous.
On change tout.
C'est ça, exactement. Puis, on est quand même aussi très présents dans les comités au niveau du CIUS. Donc, on nous connaît et la recherche, le CIUS nous a vraiment intégrés dans son processus de maison des aînés pour construire les maisons des aînés. Donc, ça a été très facilitant pour la recherche de s'intégrer dans le milieu. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Franchement, c'est sûr qu'il y a des enjeux. Ça ne peut pas être
tout parfait,
oui, bien évidemment. C'est une nouvelle philosophie. Puis, les employés travaillaient depuis longtemps dans les CHSLD, donc ils ont leurs habitudes. Les résidents ont leurs habitudes aussi. Puis, on s'entend qu'à cet âge-là, changer des habitudes, ce n'est pas toujours facile. Donc, il y a une gestion du changement qui est difficile. Mm-hmm. Exactement. Puis ça va être un de nos gros sujets à s'occuper, à gérer dans un premier temps, je pense, avec des projets de recherche, essayer d'aider dans cette gestion de changement qui est pas facile.
Vise une clientèle qui est effectivement pas propice au changement à la base.
Exact.
Autant de par leur âge que de par leur troubles ou leur maladie qu'ils ont, là. Donc c'est ça qui est très complexe.
Exact. Mais sinon, en règle générale, là, pour avoir fait des entrevues avec des résidents et des proches, c'est très apprécié, le milieu est apprécié. C'est sûr que c'est une nouvelle bâtisse qui est très spacieuse, qui est lumineuse. C'est agréable par rapport à Louis-Hébert qui était... On s'entend, il nécessitait des travaux. Là.
Oui, effectivement. Puis quand on parle de maisonnée, est-ce qu'on peut un peu se situer sur comment c'est fait, des maisonnées?
Bien, c'est un espace. Tout le tour de l'espace physique se trouvent les chambres des résidents. Okay. Chaque résident a sa chambre privée avec salle de bain privée. Quand le résident sort de sa chambre, il se retrouve dans un milieu de vie. Okay. Un milieu de vie où on retrouve une salle à manger, une cuisine, un salon, une verrière. Donc, tous les résidents d'une même maisonnée, quand ils y sortent, ils ont des occasions d'échanger ensemble, de se côtoyer et d'avoir une vie qui est commune, par exemple, lors de l'activité repas, d'être assis à la salle à manger ensemble, d'être dans le salon... De regarder la télévision, si la télévision est allumée, etc.
Puis, dans chaque maisonnée, il y a environ combien de résidents? Est-ce que c'est réfléchi sur le nombre de résidents qui est idéal par maisonnée?
Bien, ça varie d'un établissement à l'autre, mais à Sainte-Foy, c'est à Maison des aînés de Sainte-Foy, c'est 12.
12 résidents par maisonnée. Ouais. Puis, il y a combien de maisonnées à peu près dans une...
Bien, il y a 96 places, donc 8 maisonnées.
OK, parfait. Ouais. Et ça fait quand même quelque chose d'intéressant. Donc, chaque maisonnée ont leur milieu de vie, donc vivent. Est-ce qu'on met n'importe qui
il y a un effort qui est fait. Alexandra, tu pourras peut-être compléter sur comment ça se passe dans les faits pour le déploiement de la maison des aînés. Mais la volonté, c'est de tenter de regrouper des gens qui ont des parcours de vie ou des intérêts ou des passions qui sont similaires, qui se rejoignent. Ça pourrait être des passions sur le sport, ça pourrait être des passions sur la science, ça pourrait être de réunir principalement des universitaires ensemble. Mais c'est vraiment basé sur l'histoire de vie de chaque résident. On essaie de mettre en commun des personnes qui ont plus de probabilité d'avoir des échanges sur des passions, sur des intérêts communs.
Est-ce que c'est parce que ça me fait penser, parce que nous aussi, on a un centre de jour qui fonctionne à peu près de la même façon au niveau des journées. T'sais, on essaie d'y aller avec le bagage de vie pour avoir une certaine homogénéité dans les journées. Mais il y a aussi, le bagage de vie, mais il y a aussi l'évolution de la maladie qui fait que ça peut être très confrontant parfois. Est-ce que vous avez un enjeu par rapport à ça quand vous tentez de réfléchir sur qui va à quel endroit?
C'est ça que j'allais dire. En plus de l'histoire de vie, en fait, au CIUS, ils ont un comité d'admission, les gestionnaires de la maison des aînés. Puis, il y a l'histoire de vie, mais il y a aussi le niveau d'autonomie, des personnes qui vont faire de l'errance, elles vont plutôt être ensemble, des personnes qui... Ce qui fait qu'on a des maisonnées qui sont un peu plus vivantes, un peu plus actives que d'autres maisonnées, mais oui, c'est l'avancée de la maladie est prise en compte. Après, comme je disais, ils ont été transférés de Louis-Hébert, c'était 42 résidents. Donc ça, ils y sont plus allés un peu avec l'affinité, puis les histoires d'errance. Mais ça bouge. Puis ils ont admis beaucoup de résidents depuis. Donc ils essayent au fur et à mesure de faire l'histoire de vie. Mais l'idée, ce n'est pas de changer d'un résident de maisonnée. Non, parce que finalement, il serait mieux dans cette maisonnée. Donc, on essaye de... ils essayent parce que la recherche ne fait pas grand-chose dans le processus d'admission. Mais oui, ils prennent tout ça en compte.
OK. Puis est-ce que c'est trop tôt en ce moment pour... c'est peut-être trop tôt pour vous poser la question, mais je vais le faire quand même. Est-ce qu'en ce moment, depuis le changement, vous voyez des différences au niveau des comportements des résidents? Est-ce que vous voyez qu'il y a, au niveau du confort, au niveau de... Vous êtes déjà en mesure, après trois mois, de voir des changements?
Oui, tu peux parler de du monsieur qui joue.
Effectivement, oui. On a beaucoup de changements. Mm-hmm. Là, pour le coup, c'est notre LinkedIn praticienne, donc la chef d'unité sur le terrain qui l'a beaucoup vu avec le gestionnaire de la maison des aînés. Comme il disait, il y a un monsieur qui, à Louis-Hébert, ne sortait jamais de sa chambre. Puis, quand il arrivait à la maison des aînés, il s'est mis à sortir, à se balader dans les espaces. Puis surtout, il jouait de l'accordéon, puis il s'est remis à jouer. Puis chose qu'il ne faisait pas du tout. Puis sinon, l'autre exemple, je n'ai pas les chiffres, mais je pense que quasi tous les résidents maintenant mangent dans la salle à manger. Donc avec,
plutôt que dans leur chambre.
Alors qu'avant, c'était, je pense, presque un tiers qui mangeait dans leur chambre. Donc, il y a quand même un beau changement. Pareil pour les douches, les soins d'hygiène peuvent se faire à même la chambre ou à la baignoire, dans l'espace comme en centre de coordination à l'arrière. Puis là, il y a quand même beaucoup de résidents qui acceptent le soin d'hygiène dans sa chambre, donc dans sa propre douche. Donc, ce qui est quand même aussi un beau changement. Donc, des petits points comme ça qui apparaissent, qui sont beaux à voir, qui sont agréables.
Puis ça, cette espèce, parce que je me suis posé la question au début quand vous expliquiez un peu comment c'était fait. En fait, ce qu'on rencontre comme enjeu de ce que je vois dans les familles que je rencontre, etc., c'est que, tu sais, leurs proches, ils sortent pas. Puis c'est sûr que si on va pas le chercher, il voudra pas sortir pour les activités, etc. Je me demandais si justement, tu viens un peu de répondre au questionnement, si justement il allait avoir vraiment. Parce qu'on sait que les gens avec un trouble neurocognitif, si on va pas initier l'activité, etc., les gens n'auront pas le réflexe dû à l'apathie et tout, le réflexe de se mettre en action. Mais là, ce qu'on voit, c'est que vu qu'il n'y a pas de porte fermée, vu que les portes sont ouvertes, probablement, ils voient les gens...
Mais ils peuvent fermer leur chambre s'ils veulent. Okay. Ça, c'est autorisé. Mais moi, je ne connais pas beaucoup de CHSLD, mais si je prends l'exemple du CHSLD de Louis-Hébert, c'était comme des petits corridors avec... si le résident, il sortait, en face, c'était une autre chambre.
Une autre porte,
C'est ça. Là, il ouvre, puis c'est un espace de vie. Il arrive soit dans la salle à manger, soit dans le salon. C'est lumineux, puisque disait Carole tout au début, toutes les chambres donnent sur la communauté, tous les espaces de vie donnent sur les cours intérieurs. Okay. Donc, c'est invitant. En fait, c'est vraiment invitant. Puis je pense aussi, l'autre chose qui favorise, c'est qu'ils ont une équipe, ils ont plus de personnel au niveau activité des loisirs. Ils ont quand même un beau...
Récréologue,
etc. Ouais. Oui, et puis pas mal de bénévoles. Donc ça va... je pense que ça va aussi aider. Puis un des objectifs, c'est d'impliquer beaucoup la communauté dans les maisons des aînés. Il y a une des cours intérieures qui donne sur la communauté. C'est-à-dire qu'on, par exemple, on pourrait faire un jardin communautaire.
Okay.
Donc, je pense que c'est plein de petits points qui vont permettre de stimuler les personnes qui ont des troubles neurocognitifs, qui ont tendance normalement en effet à s'isoler dans leur chambre, mais ça va les stimuler, ça va leur donner envie de sortir et de faire des choses.
Puis sur la communauté, si je peux compléter, il y a une initiative qui a démarré pour impliquer les enfants de l'école primaire qui est tout juste voisine de la maison des aînés.
Okay.
Donc, comment intégrer les enfants dans les activités au sein de la maison des aînés. Donc, il y a un travail qui se fait pour implanter, en fait, des liens vers la communauté, mais qui sont bidirectionnels. Là, ça commence unidirectionnel, dans le sens où on attire des gens de la communauté au sein de l'établissement, les familiariser avec ce genre d'établissement-là, les problématiques qu'on peut observer dans l'établissement. Mais éventuellement, on va tenter aussi de développer des liens où ce sont les résidents qui sortent participer aux activités de la communauté autour, dans le secteur, en fait, dans le quartier où se trouve la maison des aînés.
Mm-hmm. Puis, vous disiez tantôt que c'est super intéressant parce qu'effectivement, justement, le tout ce qui est intergénérationnel, c'est très, 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 très bénéfique. Là, nous, on le voit avec les enfants de la garderie qui viennent dans notre centre de jour. Là, ça rend les gens lumineux. Et...
Dans les deux sens.
Oui, les deux sens. Les enfants adorent ça. Puis les personnes aussi qui viennent au centre de jour, c'est toujours positif là, de voir les enfants et tout bouger. Ça met de la vie, veux, veux pas. Mm. Vous disiez que ce projet-là, la pandémie avait mis en lumière certaines problématiques par rapport à tout ce que vous allez mettre en place ou ce que vous avez le désir de mettre en place. Si, par exemple, on refait face à une situation qui est relativement similaire à la pandémie, est-ce que vous pensez que tout ce que vous mettez en place présentement va modifier la façon dont on va réagir à une situation comme la pandémie ou de quelle façon ça va changer puis ça va s'améliorer?
Si on faisait face à une... Oui, je comprends. Si on faisait face à une nouvelle pandémie demain matin, on aurait peut-être encore de la difficulté à s'adapter parce qu'on est en changement présentement. Mm-hmm. Le processus est entamé, par contre. Mais juste, je vais relever deux données scientifiques là-dessus. Mm-hmm. Durant la pandémie, il a été démontré dans une étude américaine que les milieux d'hébergement et de soins de longue durée qui adoptent une philosophie similaire, en fait, on appelle ça les modèles innovants d'hébergement et de soins de longue durée, dont font partie les maisons des aînés. Et dans ce type d'établissement-là, innovant, il y a eu beaucoup moins de décès liés à la COVID-19 que dans des établissements conventionnels comme les CHSLD. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose. Une des raisons potentielles, c'est que chacun a sa salle de bain privée, donc les risques de contamination sont diminués. Bon.
Okay.
L'autre chose, c'est... nous, on travaille beaucoup, on est beaucoup inspirés par ce que fait l'équipe de Maastricht aux Pays-Bas. Okay. Ils ont développé depuis 25 ans, plus de 25 ans maintenant, un Living Lab aussi en établissement de soins, en fait d'hébergement et de soins de longue durée. Ils ont près de 200 établissements maintenant dans leur Living Lab. Et ils ont été en mesure, avec leurs pratiques, leurs projets sur le terrain, avec la perspective intersectorielle et tout, puis en faisant intervenir tout le monde sur le terrain, les proches, les infirmières, les préposés, ils ont été en mesure de développer un protocole qui permettait la visite de proches aux résidents hébergés dans les établissements. C'était la première fois. En fait, ça a été le premier modèle ou le premier processus d'admission des proches dans les CHSLD durant la pandémie. Mm-hmm. Ça, c'est grâce aux activités du Living Lab à Maastricht.
Wow, OK. Parce
qu'il y a des possibilités d'améliorer les choses ou d'être en réaction envers des situations comme on a vécu, par exemple, la pandémie.
Puis ils n'ont pas vu, avec justement la possibilité d'admission des proches aidants, des personnes proches des résidents, ils n'ont pas vu une augmentation des cas ou une propagation qui est plus grande par rapport à ça.
C'est justement, ils ont eu l'autorisation du gouvernement néerlandais d'implanter ça parce que dans les procédures, le protocole qu'ils ont mis en place, ça n'augmentait pas de façon significative les contaminations, infections.
OK. Parce que ça a été un gros problème là, pendant la pandémie. Les gens étaient complètement seuls dans leur chambre. Mm. En plus, ils n'étaient pas dans un milieu de vie, etc. Donc, on parlait d'autonomie, etc., et de stimulation. Ça, c'était horrible.
Mais juste pour rebondir à ce que Carole dit, c'est que est-ce que demain, une nouvelle pandémie arrive? Est-ce que le fait d'avoir un Living Lab à même la maison des aînés va changer quelque chose? Oui et non, parce que, comme dit Carole, Oui, parce que probablement qu'on va pouvoir leur proposer des solutions comme mm-hmm. le Living Lab de Maastricht. Donc, on a des personnes qui sont expertes sur les préventions contre les infections. Donc, on va pouvoir trouver des solutions, leur proposer. Mais il ne faut pas oublier que le Living Lab de Maastricht est soutenu par le ministère, par mm-hmm. l'État derrière. Donc, c'est-à-dire que nous, on peut dire aussi, ah, oh, bah, regardez, on pourrait faire ça, mais... C'est encore le CIUS, c'est encore le ministère qui mm-hmm. prendra les décisions. Mm-hmm. Le Living Lab ne sort pas la maison des aînés de Sainte-Foy de toutes les autres procédures CIUS.
Oui, je comprends.
Donc,
il y a quand même un protocole, malheureusement.
Exact. Donc, mais
vous n'avez pas la liberté de tout.
Non. La maison des aînés ne nous appartient pas. Mm-hmm. Ce n'est pas un milieu privé non plus. Mm-hmm. Donc, on devra suivre...
Mais juste pour faire du chemin là-dessus, il y a une volonté d'alléger les processus, mm-hmm. les procédures.
Okay.
Dans le plan d'action qui découle de la politique d'hébergement et des soins et services de longue durée, la politique qui a été publiée par l'ancienne ministre Blais, mm-hmm. il y a un plan d'action qui découle de ça. Il y a un comité conseil qui a été formé, dont je fais partie depuis récemment. Et une des choses qui va être étudiée dans le comité, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger les procédures? Parce que c'est un frein, les procédures.
Ouais.
Ça brise un peu la spontanéité dans ce mm-hmm. qu'on peut offrir comme service, comme activité, etc.
La liberté, oui.
Donc, comment alléger ça pour favoriser la philosophie derrière les maisons mm-hmm. des aînés, c'est-à-dire permettre l'autodétermination, respecter les choix, les habitudes des personnes résidentes.
Mm-hmm.
Fait que si une personne résidente a un besoin... qui arrive, mais qu'on ne puisse pas y répondre immédiatement parce qu'il y a une procédure d'approbation qui est nécessaire derrière, ça nuit un peu à la mise en place de la philosophie des maisons des aînés. Fait qu'il y a un travail qui se fait actuellement pour trouver des solutions pour alléger ces procédures-là. Ouais.
C'est intéressant. Puis là, vous avez plusieurs partenaires, dont bon, le CIUS, etc. Avant, là, tu disais tantôt, c'est pas un milieu privé. Est-ce que ça aurait été plus facile d'implanter ce genre de Living Lab-là dans un milieu privé ou c'est assez similaire comme...
Bien, je peux te laisser répondre par rapport avec notre futur, peut-être.
Oui, ben, on est en discussion avec un futur partenaire au privé.
Pour voir la différence aussi de...
Oui, ben, c'est sûr que les établissements privés ont peut-être un peu plus de flexibilité. Mm-hmm. Un peu plus d'agilité,
ouais.
Sont moins... Ben, ils ont des lois, des normes, mm-hmm. ils ont toutes sortes de choses à respecter, mais sont moins dans les procédures.
Mm-hmm.
Donc, il y a un peu plus de flexibilité dans ce genre de milieu-là.
Puis moins de hiérarchie aussi, je pense.
Moins de hiérarchie
oui,
aussi.
Oui, effectivement.
Ouais.
Ouais. Mm-hmm.
Donc... En fait, si on s'intègre dans le milieu privé avec qui on a des discussions, ben, mm-hmm. on pourra voir aussi c'est quoi les différences entre le modèle public et le modèle privé.
Mm-hmm.
Puis je pense que des deux côtés, chacun a gagné des pratiques
ben oui,
qui se font autant du côté public que du côté privé. C'est un peu l'idée que mm-hmm. j'ai, c'est voir comment on peut s'inspirer du milieu privé et appliquer des initiatives dans le milieu public et vice-versa, ce qui est dans le public, nos bons coups, comment on peut les étendre maintenant au privé.
Mm-hmm. Je comprends.
Mais donc, il y a un petit, je pense qu'il y a un petit peu plus de flexibilité avec le privé.
Mm-hmm. Mais deux bénéficieraient de...
Oui, après, il faut aussi penser que souvent, par exemple, les ratios au niveau des employés ne sont pas les mêmes.
Mm-hmm.
Donc, il y a des choses quand même à prendre en compte. Ce n'est pas un copier-coller de...
Non, c'est sûr que vous allez avoir de l'adaptation aussi au niveau du projet à avoir, là. OK. Puis, par rapport aux partenaires, je reviens pour une troisième fois, par rapport aux partenaires que vous avez, je sais que la Société Alzheimer en fait partie, des partenaires que vous avez pour la mise en place du projet, du Living Lab. De quelle façon ces partenaires-là vont vous être utiles sur la mise en place du Living Lab, des maisons des aînés, etc.?
Je vais commencer, puis tu finiras. Ouais. L'idée à la base, un Living Lab, l'idée, c'est de laisser la place le plus possible à l'expertise, aux idées, mm-hmm. Aux initiatives des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent la réalité. Et dans ce contexte-là, c'est logique de faire intervenir des partenaires. Ça, c'est Alzheimer est un partenaire. On a aussi l'Europe 03 pour les personnes handicapées. Mm-hmm. On a la STAS pour les employés. Ben, il y a des pratiques que vous avez à la Société Alzheimer qui peuvent être utiles en maison des aînés. Il y a des formations que vous offrez qui peuvent être utiles, par exemple, aux employés ou aux bénévoles ou aux proches qui viennent à la maison des aînés. Donc, c'est l'expertise que vous avez, comment elle peut contribuer à l'amélioration continue des soins, des services d'hébergement dans ce type d'établissement-là. Puis un exemple, là je te passerai la balle, un exemple, c'est avec l'Europe 03. L'Europe 03 a identifié un enjeu par rapport à deux populations au sein de la maison des aînés. Okay. En fait, je dis maison des aînés, je devrais toujours ajouter alternative aussi, parce que c'est un enjeu qui concerne le volet alternatif des maisons des aînés. Donc, comment améliorer les soins, les activités offertes aux personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle? Fait qu'il y a une demande qui a été soumise, en fait, préparée même par Alexandra. Je ne sais pas si tu veux en parler, tu sais, raconter un peu quel est l'enjeu puis comment on va...
Juste pour... je ne sais pas si tout le monde est familier avec donc la... le volet alternatif. Oui,
c'est la question que j'allais...
parce que c'est vrai qu'on en parle peu vu qu'on était avec Société Alzheimer, mais donc sur les 96 résidents à la maison des aînés de Sainte-Foy et Alternative, il y a 12 résidents, donc une maisonnée, où c'est des jeunes adultes qui ont soit des personnes autistes ou avec des déficiences intellectuelles. Il y a également un peu des déficiences moteurs, mais à Sainte-Foy, c'est quand même principalement autisme et déficiences intellectuelles. Okay. Donc, par exemple, comme Carole le disait, à quoi ressemble une journée type, je discute avec les employés, je discute avec la chef d'unité, et puis là, on se rend compte que les employés ne sont pas forcément habitués à travailler avec cette population, puisqu'avant, c'était des employés qui étaient en CHSLD, donc qui ne savent pas comment s'adresser, communiquer, qui, parfois, il faut le dire, ont un peu peur aussi de cette population. Donc, on a senti cet enjeu, on est allé discuter avec notre partenaire, donc Rob 03, puis la directrice est venue à même la maison des aînés et Alternative, puis on a discuté, réfléchi et on a présenté un projet donc, qui est en attente pour savoir si on sera subventionné par la société inclusive.
Okay.
Puis ce projet, ça serait de co-construire des ateliers pour animer le milieu de vie. Okay. Dans une maison alternative. Donc, former le personnel à quel type d'atelier, quel type d'activité on peut faire avec ses résidents. Puis ça, grâce à Rob 03, puis surtout aux membres de Rob 03, ils ont beaucoup de membres, ils ont beaucoup d'organismes, donc qui vont pouvoir venir partager leur expérience, partager leur formation. Donc voilà comment, finalement, un de nos partenaires peut être en co-construction avec nous pour ce projet. Mm-hmm. Bien évidemment, on a des chercheurs dans ce projet également, qui sont experts sur ce sujet. Mm-hmm. Mais c'est sûr que sans notre partenaire, le projet ne peut pas avoir lieu parce qu'on a besoin des membres qui viennent donner les formations dans la maison.
Je comprends. Puis il y a combien de personnes environ qui travaillent sur ce genre de projet-là? Vous êtes combien de chercheurs, par exemple?
De chercheurs, on est rendu
20... Dans le Living Lab, 29.
29 de 11 facultés différentes à l'université.
OK.
Et 17 départements, je crois, différents. Mm-hmm. Donc, à peu près, pas tous les domaines du savoir sont représentés, mais beaucoup de domaines du savoir sont représentés.
Mm-hmm.
Et ce qui fait en sorte que si on a un enjeu qui est d'ordre technologique... on a des gens qui ont l'expertise pour ça. Si on a des enjeux d'ordre légal, on a quelqu'un aussi, celui qui est avocate.
C'est très large,
Mm-hmm. Puis c'est ouvert. On vient de recruter justement deux nouvelles personnes pour le projet qu'Alexandra a expliqué sur la maison alternative avec les populations autistes et déficientes intellectuelles. On est allé recruter parce qu'on avait un besoin à ce moment-là. Donc, c'est ouvert. Le groupe va continuer à grandir.
À grandir, selon les besoins, selon les enjeux auxquels vous faites face, au fait.
C'est ça.
Au bout du compte. Ouais. Parlant d'enjeux, en ce moment, quel type d'enjeux principaux Parce qu'on sait que, bon, même dans les CHSLD, en ce moment, il y a des enjeux. Probablement que ces enjeux-là, puis là, je vous confirmerai, là, mais probablement que ces enjeux-là, certains d'entre eux se sont transposés, ont suivi les résidents, en fait. Mm-hmm. Quel type d'enjeux principaux auxquels vous faites face en ce moment?
Je peux commencer, puis tu compléteras, mais, parce qu'il y en a tout plein d'enjeux. Oui. Il y en a toutes sortes, mais je pense le principal, mm-hmm. ça, c'est sorti. En fait, on a eu un comité de pilotage qui inclut tous les membres concernés. Société Alzheimer était là par votre mm-hmm. directeur général, ouais. l'Europe 03, etc., mais aussi les personnes sur le terrain, la chef d'unité, le gestionnaire de la maison des aînés. Et ce qui est ressorti de ces gens-là sur le terrain, mm-hmm. c'est que Le principal enjeu, c'est la gestion du changement, puis l'appropriation de la philosophie liée aux okay. maisons des aînés mm-hmm. pour faciliter la mise en place des soins qui respectent, des soins et services qui respectent la philosophie des maisons mm-hmm. des aînés. Donc, le principal travail qui va devoir être fait dans les prochains mois, ça va être de gérer puis de ce changement-là, puis mm-hmm. favoriser l'appropriation de la philosophie chez les employés.
Un peu de déconstruire les habitudes que les employés, le personnel avaient auparavant pour essayer de reconstruire sur des bases qui sont un peu vierges, si on veut. Là.
Ça peut être déconstruire. En fait, le projet va le révéler. Ça peut être mm-hmm. déconstruire, ça peut être d'adapter des pratiques, ça peut être d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles okay. expertises. Donc, ce travail-là, je pense qu'une fois qu'il va être fait, va faciliter mm-hmm. beaucoup d'initiatives par la suite. Parce ouais. que si cette appropriation-là de la philosophie n'est pas faite ou n'est mm-hmm. pas complète chez les employés, ben ça va être dur après ça de déployer des projets qui vont dans le sens de la philosophie des ouais. maisons des aînés. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose.
Mais... Je pense qu'en effet, un des gros enjeux, c'est cette gestion du changement. L'autre enjeu, c'est aussi, bien évidemment, l'organisation du travail, puis le manque de personnel.
Évidemment.
Ce qu'on disait, là, il mm-hmm. manque de personnel en CHSLD. Puis mm-hmm. oui, c'est sûr que les maisons des aînés alternatives, ça a attiré un peu les gens en disant « waouh, nouveau milieu », mais... Ben, l'idée, déjà, ce n'était pas de vider les CHSLD des employés. Donc, il y avait ça à gérer. Puis, les employés, quand ils arrivent dans ce nouveau modèle, ben, parfois, cette philosophie, c'est difficile. Les espaces sont très grands. Donc, les employés ne s'étaient pas préparés forcément à ça. Okay. Le fait de devoir suivre le rythme du résident, c'est pas facile pour tous. Des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de donner des soins d'hygiène quand ils étaient sur un quart de soir, ben là, il faut qu'elles puissent faire ça mm-hmm. parce que si le résident le veut... Donc, je pense que l'organisation du travail, c'est aussi... Mais pour l'instant, on a comme décidé de mettre cet enjeu un peu... de côté, pas parce qu'on ne veut pas s'en occuper, mais parce qu'on pense qu'au niveau du CIUS, au niveau des gestionnaires, ils ont mm-hmm. déjà, ils s'en occupent déjà. Mm-hmm. Ils essayent de recruter, ils essayent de former. Puis faut savoir quand même que le CIUS a fait un très gros travail là-dessus, sur les formations. Ils ont préparé mm-hmm. des très belles formations, ils ont une intégration pour les employés. Donc, ils ont mis en place beaucoup de choses pour préparer les employés à, mm-hmm. à ce changement. Donc, pour l'instant, au niveau organisation du travail, on laisse... l'établissement faire son petit ouais, chemin. Je pense qu'il faut leur laisser aussi le temps, voir jusqu'à l'automne comment ça se passe. Mm-hmm. Il y a la maison des aînés alternatives qui va être remplie aussi d'ici là. Donc, puis pour la gestion de changement, je pense que Carole a en effet bien expliqué.
Il va y avoir une maison des aînés alternative uniquement?
Au sein du CIUS de la Capitale-Nationale, il va y en avoir 4 au total. Okay. Y a celle de Le Bourgneuf qui ouvre sous peu.
Okay.
Puis il y a Pont-Rouge et Saint-Hilarion.
OK. OK. Est-ce que ça prend plus de... Est-ce que le concept Living Lab, Maison des aînés, prend plus de nécessite plus d'employés selon comment c'est fait, etc., qu'un concept régulier de CHSLD ou... C'est assez similaire en termes de personnel nécessaire?
Ben non, à la base, ça prend plus de personnel. Ouais. Si on veut être réactif aux besoins des résidents, mm-hmm. comme Alexandra le disait, si un résident veut son soin d'hygiène le soir, ou s'il veut prendre son petit déjeuner à 11 h le matin et mm-hmm. non pas à la même heure que tout le monde, mm-hmm. il faut être réactif pour mm-hmm. ça. Mais pour être réactif, il faut du personnel. Là.
Mm-hmm. Ben
pendant
oui,
que du personnel fait. Est là en mode surveillance ou en mode stimulation, on fait des activités avec les résidents, ben, s'il y en a un qui a un besoin particulier, il faut qu'il y ait un membre du personnel disponible. Fait que, à la base, ça nécessite quand même davantage
de personnel, ouais. effectivement. Donc, on est vraiment, on suit, il y a plus, ben, pas qu'il y a plus, mais il y a moins de rigidité au niveau de la routine commune des gens, parce que de ce que j'en comprenais dans les CHSLD, bon, à telle heure, il y a la mise au lit, à telle heure, ouais. il y a la prise de médication, telle heure, c'est l'heure. Fait qu'ils font comme des tournées de base, là, si on veut. Tout le monde mange à peu près en même temps. Tout le monde... Là, on est plus libre, on est plus flexible au niveau des routines individuelles des gens.
Oui, c'est ça. Après, il faut toujours garder en tête que ce sont des personnes âgées, donc on s'entend que leur routine ne change pas tous les jours. Mais oui, l'idée, c'est Madame de Mars, par exemple. on sait qu'elle aime prendre son soin d'hygiène à telle heure, mm-hmm. elle aime manger à telle heure, parce qu'ils peuvent aussi manger sur les heures qu'ils le souhaitent. Donc, on identifie par résident finalement comment ça fonctionne. Et après, oui, il faut s'adapter, faire un plan de travail, puis une organisation. Donc, c'est là où c'est un peu plus difficile. C'est que pour le moment, probablement qu'il y aurait peut-être besoin plus de personnel dans certaines maisonnées parce que les besoins sont plus importants que dans une maisonnée où les personnes sont autonomes, par exemple, pour se doucher. Donc, je pense que ça va être là qu'il va falloir s'adapter parce que là, aujourd'hui, c'est... deux PAB, donc préposés aux bénéficiaires, une infirmière par maisonnée. Mmh. Donc, c'est comme ciblé, mais peut-être qu'il va falloir faire évoluer ça par maisonnée en fonction des besoins.
Mmh. Donc, c'est vraiment de sortir en dehors de la boîte qu'on connaît puis de trouver des alternatives qui vont...
Puis, ne pas être que sur la tâche, quoi. Vraiment, essayer de... Un préposé qui passe, puis... qui voit qu'une personne veut aller faire une activité, ben, même si ce n'est pas dans ses tâches normalement, ben, faut quand même qu'elle n'hésite pas à le faire. Quoi. Mm-hmm. Pour que ça fonctionne, c'est ça l'idée. C'est que...
ben, en fait, ça va devenir dans ses tâches que de justement répondre aux besoins immédiats des personnes différentes. Je comprends.
Puis il y a un travail à faire sur la collaboration interprofessionnelle. Non. Okay. Ce que Alexandra vient de nommer, c'est un peu ça. Non? Sortir du cloisonnement des tâches associées à chaque corps de métier, mais que chacun fait ce qu'il faut pour que l'esprit, la philosophie d'une maison des aînés puisse s'exprimer, puisse se déployer.
Donc, vraiment, ce que vous nommiez tantôt, en fait, d'essayer de réduire les espèces de lignes dans les procédures, etc., pour avoir une plus grande, flexibilité. C'est intéressant, ça. Bien, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments intéressants qu'on pouvait ajouter. Si jamais on veut avoir de l'information par rapport à ça, s'il y a des gens qui, justement, sont intrigués par ce concept-là, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a quelqu'un, une référence à qui on peut faire appel?
On n'a pas encore de
page.
Ça va venir. On commence nos activités. Hein, donc, on a un plan de communication qui s'en vient.
Okay.
Il va y avoir des infolettes, il va y avoir toutes sortes de choses qui s'en viennent. Pour l'instant, je ne sais pas, on a une
adresse courriel.
Une adresse courriel du Living Lab. C'est quoi? C'est
LabMDAA.
@ulaval.ca.
OK. Parfait.
Il y a ça pour l'instant. Mais les autres, il va y avoir une page web éventuellement. Puis,
OK. Puis j'ai une dernière question. Pourquoi Camélia? Pourquoi ça s'appelle comme ça?
Pourquoi Camélia?
Carole va répondre.
Il y a eu, dans une perspective de co-construction, on a généré des idées sur le comité de pilotage sur quel nom pourrait prendre le Living Lab. Au départ, on voulait quelque chose qui était... qu'on pouvait dire en anglais et en français.
Oui.
Le latin est beaucoup utilisé dans le monde médical.
Donc, on
a commencé par essayer de trouver un mot latin. Ça n'a pas fonctionné. Et finalement, en fait, pour sauter des étapes, L'idée de la camélia a été évoquée. La camélia, c'est une fleur robuste du Japon qui représente la bienveillance, l'empathie, qui est souvent offerte dans les occasions difficiles, comme des funérailles et tout ça. Donc, on est parti de là. Ça représentait bien l'esprit d'une maison des aînés, donc l'empathie, bienveillance et tout. Puis avec ça, on a fait créer un logo par concours et c'est ça, on a un logo depuis le mois de décembre qui, dans le logo, on a la représentation d'une fleur de camélia avec comme deux mains de chaque côté là, pour représenter la bienveillance. Donc camélia vient essentiellement de la tradition japonaise puis la signification que ça a pour eux, cette fleur-là.
C'est beau, mais merci beaucoup à vous deux d'avoir été généreux de votre temps. Puis,
merci à vous.
Ouais. C'était un plaisir de parler avec vous. Donc, on vous remercie aussi d'avoir été à l'écoute. La marche Alzheimer, les inscriptions pour la marche Alzheimer sont débutées. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, tout se retrouve sur notre site Internet, donc SocietéAlzheimerDeQuébec.com. Merci.